Vous en avez peut-être entendu parler, un des plus grands narcotrafiquants de la planète fait présentement face au tribunal. Il s'appelle Joaquin Guzman, mais on le connaît sous le nom d'El Chapo. Pour nous en parler, on reçoit le chroniqueur au quotidien Le Soleil, Jean-Simon Gagné. Bonjour Jean-Simon.
Bonjour.
Es-tu du genre à avoir binge-watché Narcos sur Netflix comme Julie et moi avons pu le faire dans les derniers mois?
Un peu moins, mais il faut dire qu'il apparaît dans plusieurs séries. Il y a une série d'ailleurs qui lui est consacrée entièrement. Il y a 35 épisodes. Là. Donc, on manque pas d'occasion de le voir.
C'est quand même fascinant de voir qu'on s'intéresse à ces gars-là. Pablo Escobar, El Chapo, c'est des hommes d'affaires qui ont fait leur fortune à coups de violence puis de bains de sang. Puis pourtant, on veut en savoir plus sur leur histoire, sur leur passé, sur comment ils ont terminé leur carrière. Là.
Oui, mais c'est sûr que ça fait de bonnes histoires, ça fait des histoires à multiples rebondissements. Mais la grosse différence entre Escobar et El Chapo, je dirais, il y a plus de 20 ans qui les sépare, là. Mm-hmm. Mais c'est que Escobar faisait la lutte au système. Et ça, c'était une lutte perdue d'avance.
Ouais.
El Chapo, lui, il est devenu le système.
Mais pourtant, dans le cas d'Escobar, il a essayé. En fait, il a été élu député à un certain moment donné de sa carrière de narco.
Oui, mais il était vu comme quelqu'un qui voulait complètement bouleverser les choses, alors que le chapeau, lui, se contente d'acheter tout le monde.
Ouais. Dans ton dossier en fin de semaine, Jean-Simon, tu disais d'El Chapo que c'était un mélange de gangsters, de PDG de multinationales, de terroristes puis de vedettes rock. Son épouse, c'est une ex-reine de beauté. Le gars accorde une certaine importance à son image, à son branding, comme disent les Américains.
Tout à fait. Quand Netflix a annoncé qu'il allait faire une série de 35 épisodes sur lui, il a appelé des avocats pour obtenir des droits d'auteur. Vous voyez comment il se préoccupe beaucoup de son image. Et on dit que la chose qui l'a le plus flatté, ce fut de voir son nom apparaître au 41e rang des personnalités les plus influentes selon le magazine Forbes.
C'est ça, jusqu'à
donc,
un certain point.
Ça lui a fait un plaisir immense.
Ah oui, on joue son jeu. Les médias ont un peu embarqué, puis ça nourrit le mythe El Chapo aussi. C'est un personnage qui est plus grand que nature malgré toute la violence qui l'entoure.
Oui, ben c'est ça. Il a différents surnoms dans sa région d'origine. Il est vu comme une espèce de Robin des Bois. Il a ses bonnes œuvres aussi. Il donne un peu de l'argent à l'Église au passage. Donc, oui, effectivement, c'est à la fois il tient à la fois du terroriste, du gangster, mais aussi de la vedette rock, du PDG de multinationales, très préoccupé de son image de marque.
Mm-hmm.
C'est bizarre à dire, mais c'est ainsi.
Ah oui.
Et il y a toutes sortes de légendes qui courent sur sa vie, mais une probablement des plus tenaces et une des plus symboliques, c'est qu'on dit qu'en 2004, le jour de la fête des mères, donc en mai 2004, son fils venait a été assassiné par un gang rival, un de ses fils plutôt. Et donc, on dit qu'il n'y avait plus une seule rose rouge disponible dans son état natal. Monsieur, ils avaient tout acheté pour fleurir la tombe de son fils.
La réaction était à la hauteur du personnage.
Ah oui, ben là, écoutez, c'est la réaction fut terrible et ceux qui étaient responsables de cet assassinat à peu près tous étaient horriblement, non seulement assassinés, mais horriblement torturés. On disait d'ailleurs qu'il s'était fait construire une espèce d'abattoir près de la frontière du Mexique, là, du côté du Mexique, mais près de la frontière du Texas. Mm-hmm. Donc les murs étaient recouverts de plastique pour faciliter le nettoyage et il y avait un gros drain au plancher pour évacuer ce que vous pouvez deviner.
Ouais.
Donc monsieur en plus a l'esprit pratique là, à travers tout ça. Là.
Son procès s'est amorcé le 5 novembre. Je veux quand même qu'on remonte un peu dans le passé pour expliquer comment il a réussi à devenir le premier trafiquant de drogue à l'échelle mondiale. Ça s'est passé au début des années 2000. Puis pourtant, il avait été capturé une première fois en 93. Là. Il s'est refait, cet homme-là, jusqu'à un certain point.
Ben, il s'est échappé deux fois et ses évasions ont contribué à son espèce de réputation de roi de l'évasion. D'ailleurs, on le surnomme à l'occasion comme ça. La première est survenue au début des années 2000 et dans un, on a toujours dit dans un panier de linge sale qui était sorti de la prison caché sous les chaussettes et les vieilles et les bobettes de ses co-détenus. En réalité, il semble qu'il soit plutôt sorti de la prison déguisé en policier. très tranquillement, pendant que l'alarme avait été donnée et que tout le monde le cherchait, lui est sorti tranquillement de la prison avec d'autres policiers. Donc, vous devinez, après ça, il y a eu plusieurs gens, y compris le directeur de la prison, qui ont été accusés de corruption, mais il avait déjà pris la clé des champs. Sa deuxième évasion est encore plus spectaculaire. Elle est survenue en 2014. Il y a ses alliés qui ont construit un tunnel de 1,6 km qui arrivait sous sa douche, dans sa cellule. Et donc, sa douche, il y avait un petit muret pour préserver évidemment son intimité quand il se douchait. Mm-hmm. Et donc, il s'est accroupi derrière le petit muret et est tout simplement disparu. Il y avait même le tunnel était extrêmement bien creusé. C'était pas un tunnel de marmotte là. C'était un tunnel vraiment. C'était un travail de pro. Il y avait même un rail et il y avait une petite moto sur laquelle justement Chapo a pu s'échapper encore plus vite. Donc l'alerte, il a fallu 30 ou 37 minutes avant que l'alerte soit donnée, ce qui est quand même un peu suspect. Mais disons qu'au bout de cette grosse demi-heure là, il était rendu très loin.
Ça montre un peu les moyens de l'homme aussi. Sa fortune est évaluée à près de 4 milliards de dollars, puis il y a des ramifications partout dans l'État mexicain. C'est ce qui lui permet d'avoir des gens qui disent « OK, boss, je vais te creuser un tunnel d'1,5 km pour te sortir de prison. » Puis malgré tout, ça a pris quand même un bon 2 ans avant qu'on remette le grappin dessus, là.
Ah ben absolument. Durant les années 2000, pour vous donner une idée, durant les années 2000, le grand patron de la lutte antidrogue au Mexique était lui-même sur le permettez-moi l'expression, sur le payroll du cartel mm-hmm. del Chapo. Et donc le cartel et probablement d'autres cartels, parce que c'est pas la seule organisation criminelle de ce genre-là au Mexique, ils avaient accès en temps réel à toutes les opérations antidrogue au Mexique. Donc, vous réalisez un peu l'ampleur du problème. D'ailleurs, on surnome, comme dans tous les pays, au Mexique, il y a un programme de protection des témoins lors de procès de grands criminels. Mais là, on l'a rebaptisé le programme de détection des témoins, tellement, justement, lors de procès de narcotrafiquants, les témoins ont tendance à disparaître. Donc, de toute évidence, les cartels ont accès à non seulement à la preuve, mais aussi à l'identité de ceux qui vont témoigner et justement leur règle leur compte avant. D'ailleurs, un des procureurs qui a le plus travaillé à l'extradition d'El Chapo aux États-Unis a été assassiné en 2016, pas longtemps après d'ailleurs que El Chapo ait été transféré aux États-Unis. D'ailleurs, le fait qu'El Chapo ait été transféré aux États-Unis, ça a été une humiliation pour le Mexique.
Mais justement, pourquoi est-ce que son procès a lieu à New York? Pourtant, c'est un narcotrafiquant mexicain qui a commis des meurtres et qui a commandité des meurtres au Mexique. Et le procès a lieu en sol américain. Pourquoi au juste?
Les États-Unis réclamaient son extradition parce qu'il est accusé de crime aux États-Unis. Il est accusé d'avoir passé de 14 milliards d'argent sale des États-Unis au Mexique et d'avoir importé je sais pas combien de centaines de tonnes de cocaïne, entre autres. Donc, il est accusé de différents crimes aux États-Unis, sauf qu'en théorie, il avait été reconnu coupable au Mexique. Mm-hmm. Donc, son extradition aux États-Unis, c'est un aveu de la part du Mexique. Nous ne sommes probablement pas capables de le garder en prison très longtemps.
Ouais.
La corruption atteint un niveau trop élevé. Probablement qu'on ne peut pas non seulement le garder en prison très longtemps, mais assurer la sécurité de témoins qui témoigneraient contre lui lors d'éventuels procès.
Et là, la troisième capture a eu lieu le 8 janvier 2016. Le procès a débuté le 5 novembre 2018. Il était détenu pendant ce temps-là et même qu'il s'est plaint de ses conditions de détention aux États-Unis.
Oui, absolument, parce que ses conditions de détention, il faut dire, étaient assez terribles. Il était en confinement à peu près total, 23 heures sur 24, les lumières continuellement ouvertes. Donc, on lui a pas fait de cadeau, là. Au point, d'ailleurs, où Amnesty International s'en est ému. Je suis pas sûr que ça lui a fait tellement plaisir. c'est pas tellement son genre de d'amis habituel. Mais quoi qu'il en soit, lui se plaignait et c'est vu souvent. Ça ne serait pas très étonnant. Il se plaignait d'hallucinations. Il se plaignait de différents problèmes de santé, ce qui est courant chez les gens qui sont gardés très longtemps comme ça en confinement. Là, c'est pas propre à El Chapo. Je pense que c'est humain. rien.
La sélection du jury a été complexe, ça a pris plusieurs jours. Il y a même un admirateur qui avait été appelé comme jury, qui a demandé un autographe à El Chapo. Ça a fait...
On l'a exclu discrètement après, oui, effectivement. Oui,
mais
oui,
on craint. Quand on a sélectionné le jury, je me suis posé la question, puis je la pose, Jean-Simon. Aurais-tu accepté d'être jury pour un procès comme celui-là? Là? Au-delà de la curiosité journalistique puis du devoir de citoyen, là, si on t'avait donné le choix, aurais-tu accepté?
Ben, comme journaliste, oui. J'aurais été très content par curiosité. Comme simple citoyen, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bien qu'on là, on a dit évidemment on va les jurys en théorie sont anonymes. Ils sont gardés en permanence.
Okay.
On connaît les limites un peu de ce genre de procédé, là, c'est clair.
Là, la preuve est colossale. Il y a des ex-collaborateurs qui ont retourné leur veste pour témoigner en échange d'une peine plus clémente. C'est quoi la stratégie des avocats d'El Chapo actuellement?
Ben, juste avant, la preuve est tellement énorme que le juge Brian Cogan a dit à un moment donné, parce que là, il était question d'un nombre indéfini très, très, très élevé de meurtres. Et là, il a fini par dire, écoutez, là, j'en ai identifié 33 qui sont à peu près bien documentés. Tenez-vous-en à ça et coupez le reste.
Okay.
Ça suffit, là, moi, je passerai pas des mois à entendre des histoires sanglantes, des histoires horribles, là, aller à l'essentiel. Donc, quand c'est rendu que le juge est obligé de dire ça, vous pouvez vous imaginer la montagne de documents qu'il a fallu analyser. C'est absolument colossal.
Mm-hmm.
Mais la défense d'El Chapo est très simple. On va dire qu'il était un simple lieutenant. On va dire qu'il n'était pas du tout le chef du cartel de Sinaloa. C'est clair que c'est vers ça qu'on s'en va.
Il veut prouver qu'il n'est pas le plus gros poisson du cartel, puis que finalement,
oui,
il n'est pas
exactement,
responsable.
Il va dire, un petit exécutant, un petit quelqu'un d'assez secondaire, finalement. Là.
OK.
Pas d'admission de son importance.
Oh, oui.
Ce qui est un peu paradoxal, mais... La justice étant ce qu'elle est, il faut prouver. C'est beau d'avoir des candidatons, d'avoir des histoires spectaculaires, mais il faut prouver. Il faut documenter chaque accusation, et ça, c'est assez compliqué.
Ça a l'air d'être tout un spectacle, ce procès-là, la sécurité entourant les procédures. Quand on le déplace entre le milieu de détention et le palais de justice, on barre le pont de Brooklyn ou un des ponts de New York. C'est quoi l'intérêt des Américains de faire un show son et lumière comme ça avec le procès d'El Chapo?
Ben, je pense que il y a quand même une part il y a quand même une part, je dirais, de peut-être pas de fierté, mais une certaine orgueil à faire ça. Ce que le Mexique n'est pas capable de faire, les États-Unis ont l'intention de le faire. Mais disons qu'ils sont peut-être allés un peu loin. Au départ, il était question de le transférer à tous les jours, de lui faire traverser le pont de Brooklyn parce qu'il est détenu à Manhattan, donc dans le sud de Manhattan, et son procès a lieu à Brooklyn. Il était question tous les matins de lui faire traverser dans un sens le pont et de lui faire retraverser le soir. Donc, il fallait bloquer le pont de Brooklyn tous les jours deux fois. Et donc, c'est majeur là, comme congestion. C'était inouï là, ce qui se préparait. Et là, il a fallu quand même un petit peu modérer les ardeurs là, des convois, parce que son convoi est gigantesque. Quand on ferme le pont, il y a au moins une ambulance, il y a toute une équipe d'une escouade tactique qui est déplacée dans une série de véhicules blindés. Il y a beaucoup de voitures de police, il y a des avocats, il y a évidemment l'accusé lui-même. Et donc, on bloque le pont pour un certain temps, mais faire ça deux fois par jour, on s'est rendu compte que c'était complètement impossible. Donc maintenant, on le transfère le lundi matin au procès, au tribunal, et il retourne dans la prison de sécurité maximum le vendredi soir.
Mm-hmm.
Et entre-temps, il est détenu, il semble qu'on lui a aménagé une cellule tout près du tribunal.
Pour éviter justement le transport puis le branle-bas de combat que ça implique à chaque fois.
Ben, pour éviter d'exaspérer les New-Yorkais davantage. Parce que fermer le pont de Brooklyn, c'est majeur quand même. Là, le faire deux fois par jour, c'est absolument irréaliste.
Mm-hmm. Admettons
même
que
si
le
on
jury...
veut faire une démonstration de force, même si on veut...
Ouais.
Il y a un peu d'orgueil là-dedans, là, mais c'était trop. Là.
Jean-Simon, admettons que le jury le déclare coupable puis qu'il va croupir en dedans jusqu'à la fin de ses jours. Il y a 61 ans aujourd'hui, El Chapo. Qu'est-ce que ça peut changer pour le Mexique puis le trafic de drogue? J'ai l'impression que la situation des cartels est tellement intense puis que c'est tellement violent avec le nombre de meurtres, des milliers de meurtres chaque année, qu'au final, ça changera pas grand-chose.
Ah ben ça, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, à 61 ans, il était déjà... C'est un âge vénérable pour un narcotrafiquant. C'est même très vieux, là. C'est plusieurs centaines d'années de nos vies à nous.
Oui.
Donc, son temps était presque passé. Donc, et depuis sa disparition du circuit, la situation s'est pas améliorée, loin de là. Les organisations criminelles même se sont réorganisées et se sont même séparées en plus petits groupes, souvent encore plus dangereux. Donc, c'est pas nécessairement... Je crois pas que sa condamnation... Et non seulement moi, mais je crois pas que vous allez trouver qui que ce soit pour vous dire que sa condamnation, même si elle est exemplaire, même si elle a peut-être une vocation d'exemple, là, ouais. Mais ça ne changera absolument rien sur le terrain. Et sur le terrain, il y a vraiment un problème majeur. D'ailleurs, il y a une journaliste mexicaine célèbre... Qui d'ailleurs elle-même a été victime de menaces à plusieurs reprises, qui disait et qui répétait souvent que la violence et les cartels, c'est un symptôme, c'est pas la maladie. Mm-hmm. La vraie maladie, c'est la corruption.
Ouais.
Et ce qu'elle disait, c'est que les cartels, ils ne pourraient pas fonctionner sans la complicité de fonctionnaires, de bureaucrates, de politiciens et des policiers, là, sans parler des banquiers. Qui blanchissent l'argent. On parle de dizaines de milliards de dollars, là. Donc, d'ailleurs, cette semaine, au procès, il y avait le frère d'un des principaux collaborateurs ou des co-chefs, si vous voulez, du cartel de Sinaloa, qui témoignait, et on espérait qu'il mette en cause, ou on s'attendait à ce qu'il mette en cause, finalement, il n'a pas fait, d'ancien président du Mexique. Donc, la corruption va jusqu'en haut et peut-être même jusqu'à la présidence elle-même.
C'est ça, c'est un
système.
Donc, ça vous
donne une idée.
C'est pas seulement un joueur qui va faire en sorte que le système va s'écrouler. Il va trouver des gens pour prendre sa place puis continuer à agresser les bons fonctionnaires, les bons élus. Puis malheureusement, le Mexique est empêtré là-dedans.
Et même les États-Unis ne sont pas à l'abri de ça. Aucun pays n'est à l'abri. Dans la prison à sécurité maximum où il est détenu, dans Lower Manhattan, il y a un gardien qui vient d'être accusé d'avoir reçu 45 000 $ pour fournir notamment des cellulaires et de l'alcool à des détenus. Donc, vous êtes dans une prison en sécurité maximum des États-Unis, vous êtes à l'endroit où El Chapo est détenu, et il y a un gardien qui se fait pincer... à justement recevoir de l'argent puis à donner des cellulaires, donner accès à des cellulaires ou à de l'alcool, à de la vitamine C, toutes sortes de choses aux détenus. Donc vous voyez que c'est d'ailleurs pour la petite histoire, d'ailleurs, cette prison là en théorie c'est une prison à sécurité maximum, et la nuit, au pire moment, disons là, au moment où la sécurité était à son plus bas, théoriquement il devait avoir 4 gardiens. On s'est rendu compte la semaine dernière qu'il y en avait seulement 2 pour des raisons parce que la direction ne voulait pas payer d'heures supplémentaires.
Une compression, mais oui.
Donc à l'occasion, vous voyez qu'on nage dans l'absurde. Là. C'est un peu
Merci beaucoup, Jean-Simon, pour cette mise à jour sur le procès d'El Chapo. Ça me fascine de suivre ça à distance. Ça a beau être un grand bandit, il y a tellement un côté spectacle autour de tout ça,
c'est clair.
Que ça devient intéressant à surveiller. On se reparle bientôt.
D'accord, parce que le procès va durer probablement 4 mois, donc on va peut-être avoir l'occasion de se reparler.
On est au début, exact. Merci, Jean-Simon, à bientôt.
Au revoir.
Jean-Simon Gagné, chroniqueur au quotidien Le Soleil. On parlait de Joaquin Guzman, alias El Chapo, le trapu.
Le trapu.
Ça
n'a rien à voir avec ce qui se mettait sur la tête, vraiment, t'es-tu sûr?
Non, je pense que non. Mais, tu sais, si le gars avait été droite, là, mettons, là. C'est un homme d'affaires, OK? Le gars a diversifié ses activités. Il y avait 3500 compagnies dans 54 pays. Imagine s'il avait pris ce côté homme d'affaires-là, puis qu'il l'avait déployé dans des industries légales. Pis dans...
C'est ça, exact. C'est du gaspillage de talent de businessman.
Exactement. Non, c'est vrai que c'est triste, puis c'est dramatique tout ce qui entoure ce cartel-là de Sinaloa, mais il faut quand même reconnaître que El Chapo est pas un personnage mythique pour rien. Et là, ben on va suivre ce qui se passe du côté de New York, parce qu'effectivement, les États-Unis vont vouloir le montrer en exemple, mais pour le Mexique, ça changera pas grand-chose.
Le retour d'Éric Duhaime.